Souïda, bonjour.
Bonjour. Monsieur Abdelhab Zekar, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation, encore une fois.
Alors, les monuments historiques, c'est notre mémoire et notre ADN. Préserver ces sites, c'est une obligation et un devoir pour mettre en œuvre l'identité nationale des sites. En Algérie, de par la richesse de notre histoire à travers les siècles, se comptent en milliers, se protéger, ils sont près de 600, mais faisons-nous aujourd'hui suffisamment pour les sauvegarder et les préserver, monsieur Zekar?
Oui. Ben, suffisamment, non. On n'est pas encore arrivé à la vitesse de croisière. Nous en sommes au début. C'est un pays jeune, justement, dans ce domaine de la protection des sites et monuments historiques. C'est vrai que la mission existe depuis longtemps. Nous accusons du retard, c'est normal. C'est 30 ans d'autres priorités qui étaient importantes pour le pays. Maintenant, depuis à peu près 5-6 ans, il y a un gros travail qui est fait sur le terrain. On n'est pas arrivé justement là où on doit arriver, mais je pense que dans quelques années, nous aurons pris en charge l'ensemble de ces sites et monuments historiques qui sont à travers le territoire, et Dieu sait combien il y en a.
Mais nous ne faisons pas suffisamment, mais ce n'est pas une raison pour que certains sites soient dans un état de dégradation avancée. Je citerai par exemple, et je le cite souvent, le théâtre ou l'amphithéâtre de Tébessa, qui est carrément une décharge publique à ciel ouvert.
Entre autres. Bon, ce n'est plus exactement ce qu'il était il y a une année ou deux. Maintenant, je crois que les collectivités locales commencent à prendre conscience, mais il n'empêche que le marché communal est toujours là. Et c'est en fait l'origine de ces ordures ménagères, c'est tout simplement le marché qui entoure l'amphithéâtre. Mais on peut prendre d'autres cas, ou citer d'autres sites où la donne patrimoniale n'existe pas un peu dans les mémoires des gens, ou ça ne représente pas quelque chose de très important. Donc il y a autre chose qui est présent dans le souci des gens. Alors ça peut se trouver ailleurs. Si vous prenez des grandes villes telles que Constantine, ou des villes comme à l'ouest par exemple, vous avez par exemple des grands bidonvilles qui s'étalent sur des sites historiques. Dernièrement, pour vous citer que cela, nous avons mis à jour une fortification ottomane qui se trouve pas loin de l'Harrach, à l'embouchure de l'ouest de l'Harrach. Et c'est une tobana, hein, c'est une fortification qui dépasait de tout un système de la baie d'Alger. Et bien dessus, il y avait un gros bidonville. Et il a fallu que le wali d'Alger enlève le bidonville pour que la fortification sorte. Et heureusement, on a agi immédiatement grâce à un chercheur, un citoyen qui était là, qui habite la région, qui connaît très bien les lieux. Et on a défendu justement cette fortification immédiatement, on l'a protégée, on l'a clôturée, on a mis des gardiens, on a mis les mesures d'urgence immédiates pour préserver. Et il y en a d'autres. Je peux vous citer par exemple le fort qui se trouve à l'intérieur de la cimenterie de la Pointe, ou qui était squatté. Aujourd'hui, la wilaya a libéré justement ce fort et nous l'avons pris en charge. Et bientôt, on va faire des travaux de restauration.
Mais est-ce qu'il faudrait aussi insister sur cette intersectorialité pour pouvoir agir et préserver ces sites? Il faut une prise de conscience collective, puisque vous avez cité aussi l'exemple d'un citoyen qui, lui, vous a alerté sur ce site ancien existant à l'embouchure de Wadi al-Harrach.
Capital. L'intersectorialité, c'est capital. Il est hors de question de dire que la protection de l'identité de ce pays, c'est-à-dire ses monuments, ses sites, soit l'affaire uniquement du ministère de la Culture. C'est pas possible. Même si le ministère avait un super budget, il ne pourrait jamais faire face à la situation. C'est une affaire d'intersectorialité, de collectivité locale. En premier lieu, si vous prenez le code communal, il y a un article dans le code communal qui responsabilise le président de l'APC envers justement cette mémoire. Il y a les autres secteurs. Donc, il y a donc la puissance publique locale, wilaya, daïra, communes, élus locaux, Il y a aussi le ministère du tourisme qui est l'utilisateur de ces biens par la suite. Il y a aussi l'artisanat, il y a aussi la formation professionnelle qui doit développer aussi des métiers qui sont en rapport avec ces affaires d'entretien et de conservation.
Mais est-ce que vous travaillez avec tous ces secteurs aujourd'hui, monsieur Zekar ?
Pour être franc, c'est très timide. Il y a des relations, mais c'est vraiment, vraiment très timide. Pour être
il n'y a pas encore prise de conscience réelle sur l'importance de ces sites et leur
Actuellement, il n'y a pas
leur
vraiment,
richesse.
Il n'y a pas vraiment cette intersectorialité. Elle existe avec les collectivités locales pour certaines villes, comme par exemple la ville d'Alger, comme par exemple Constantine, comme par exemple Oran, comme il y a certaines villes où les Walis sont derrière justement cette donne patrimoniale qui font tout pour préserver, pour nous aider. D'autres, c'est pas qu'ils prennent pas au sérieux ces choses-là, mais c'est qu'il y a d'autres priorités.
Alors pour être concret, la Casbah d'Alger, sa restauration, vous en êtes où aujourd'hui ?
Alors,
pour être concret.
Voilà, épisode 98. La Casbah d'Alger, on a achevé les travaux d'urgence, on a intervenu sur plus de 717 maisons.
Ça avance ?
Sur 1816, ça veut dire que ça représente le tiers. Et nous sommes en train de mettre en place un plan d'attaque, c'est-à-dire une opération de restauration qui vise plus de 300 maisons comme un premier bloc. On a appelé ça plan d'attaque parce qu'il faut absolument intervenir dans l'urgence pour restaurer cette fois-ci sur ces 300 maisons. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a...
Mais est-ce que ces maisons ont été libérées aujourd'hui, M. Zekar ? Parce que le problème qui se posait, voilà, le relogement de
ces familles. Une partie, et c'est grâce au tremblement de terre. Parce que le 1er août de l'année passée, il y a eu donc ce séisme qui a touché 47 maisons. Et donc la ville d'Alger, pour des raisons de sécurité, a dû évacuer ces maisons. Ces maisons sont gardées, protégées. Nous avons mis des gardiens en place. Ce sont des jeunes du quartier qui ont été recrutés pour protéger justement ces maisons le temps que les entreprises prennent place, pour éviter justement le resquat. Le problème de la Casbah, ça a été toujours cette histoire de centre de transit où les gens, les autorités évacuent et les populations re-rentrent encore de cette maison avec tous les dangers qu'il y a.
Alors, aujourd'hui, vous avez commencé les travaux, concrètement, M. Zekar ?
Sur deux ou trois unités, on a commencé, à part les monuments historiques majeurs, qui sont les biens de l'État. Vous avez vu la mosquée Kutsawa qui a démarré à grande vitesse. C'est dans le cadre de la coopération algéro-turque. Donc l'agence TICA, qui est une agence de coopération internationale, a pris en charge la restauration. C'est un don pour l'Algérie. La restauration a commencé à Kutsawa. Nous en sommes très bien aussi au niveau de la citadelle d'Alger, où sur 9 projets, 7 projets sont très très bien avancés. Je citerai à titre d'exemple le quartier des Janissaires, qui est achevé, la poudrière qui est à plus de 75%, le palais des Beys aussi, les casemates aussi. Donc à partir de là aussi, il faut que je vous dise quelque chose de très important. La muraille de la citadelle d'Alger a été libérée par le Wali d'Alger. Il y avait 37 bidonvilles qui étaient collés à la muraille. Donc nous avons récupéré un grand espace pour nous permettre de restaurer la muraille.
Le financement ?
Le financement
disponible ?
Disponible, bien sûr. Ce n'est pas du tout un problème de financement. C'est un problème de procédure, d'intersectorialité, de mise en chronologie des actions des différents acteurs.
Alors, M. Abdelhab Zekar, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Mais ce qui est agréable, c'est que chaque fois que vous venez dans le studio, vous dessinez et vous nous donnez des indications sur la carte d'Algérie avec toute sa mémoire et tout son patrimoine.
Des formations professionnelles.
Alors voilà, Archite. Les sites classés, ils se comptent à peu près à près de 600. Il y a les sites classés de type Aza avec le tombeau de la chrétienne, il y a Qalat Ben Hamed, il y a le Jamila, il y a la Casbah. On revient sur la Casbah. Est-ce que les actions que nous sommes en train de faire vont pouvoir aujourd'hui sauver la Casbah d'Alger, M. Zekar ?
Oui, c'est quelque chose qui se planifie sur une bonne dizaine d'années. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en deux ou trois ans.
Mais non, on n'a pas abusé beaucoup
donc,
de retard.
N'oubliez pas qu'on a un plan de sauvegarde. N'oubliez pas qu'il a été approuvé. N'oubliez pas aussi qu'on a les fonds nécessaires. N'oubliez pas qu'on a des bureaux d'études et des entreprises qui sont en place. Et même des partenariats avec des étrangers qui commencent à se mettre en place. La première avec les Turcs. Et on a parlé la dernière fois aussi de la présence espagnole. Mais également de présence française, de présence italienne, etc., dans le cadre de la coopération ou dans le cadre de partenariat. Alors, pour la Casbah, je voudrais aussi parler de la place des martyrs. Il y a quelque chose de très important qui se passe à la place des martyrs. Certes, il y a le fameux métro qui est en train de se faire, la ligne est terminée, la station est en cours, mais les travaux qui se font à la place des martyrs se font avec les fouilles archéologiques. C'est la première fois qu'il y a un chantier où l'intersectorialité est présente, avec le ministère des Transports, où il y a un chantier de génie civil du métro et en même temps des fouilles archéologiques sur plus de 3000 mètres carrés.
Et justement, ça a été découvert grâce aux travaux du métro d'Alger.
Absolument.
Ça a été carrément enfoui par la présence coloniale.
Absolument, enfoui par la présence coloniale. Vous savez que la première action, quand les colons sont rentrés à Alger, ils ont carrément démoli toute la partie basse de la Casbah. Et bien sûr, c'est là où il y avait les palais importants, où il y avait aussi l'unique mosquée qui portait le nom d'une femme, Jemaa Seyda, qu'on a retrouvée sous les décombres. Donc, nous avons 7 mètres et demi de profondeur archéologique. En commençant par les premières occupations phéniciennes et numides, jubéennes, romaines, Beni Mzrenna, etc.
Mais est-ce que ça a été fait dans l'intention un peu de détruire un peu l'identité algérienne?
C'est clair, c'est enlever les symboles, enlever les repères, c'est normal.
C'est ça, le travail d'un
colon. Parce que c'était une action militaire, il ne faut pas l'oublier. En 1830, une action militaire, démolir tous les édifices symboles, et puis certaines mosquées étaient utilisées comme des écuries, comme par exemple des stationnements de soldats, etc. Donc il y avait non seulement écrasement de cette mémoire, mais aussi un peu de non-respect de certains lieux religieux, par exemple. Heureusement que nous avons certaines mosquées qui restent encore debout. Nous avons aussi des trouvailles, nous faisons des fouilles archéologiques un peu partout pour retrouver un peu ce qui a été pendant longtemps caché aux Algériens, et on est en train de découvrir tout ça. On le fait à Alger, on est en train de le faire à Constantine, on est en train de le faire aussi dans d'autres
Vous les avez répertoriées, ces trouvailles, ou pas encore?
Si, les fouilles sont organisées
comme
par
le
Centre National de Recherche en Archéologie, c'est les archéologues, c'est l'université qui est derrière, etc. Combien? Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais en tout cas, les grandes fouilles repères, ou disons les fouilles de sauvetage, sont ceux-là. Celui de la Casbah d'Alger, enfin de la place des martyrs, il est très très important. Donc nous avons même transmis les rapports de ces trouvailles à l'UNESCO, puisque le site est classé patrimoine mondial. Nous sommes obligés à chaque fois d'envoyer ces études d'impact. Voilà, donc ceci a été fait dans toutes les villes d'Algérie. Toutes les villes d'Algérie ont été saccagées de ce genre. C'était une manière de ramener la civilisation. Les Algériens aujourd'hui, avec les universitaires et les chercheurs, sont en train de remettre à jour tout ça, et c'est très important.
Alors, on a un pays basque très riche aussi en patrimoine. Pour le sud, la restauration d'Erksol, celui de Ouargla, Béchar, Tarit ou Bni Abbès. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, monsieur Zekar?
Où est-ce qu'on en est? Donc, je représente l'Office national de gestion et exploitation des biens culturels. Il y a sur le territoire 48 wilayas, donc 48 directions de culture qui sont chargées, qui représentent la ministre de la Culture, ils ont beaucoup d'actions, beaucoup de projets de restauration de sites et monuments historiques. Je citerai à titre d'exemple celui de Ouargla, dont le secteur sauvegardé est en cours d'érection. Mais en attendant cela, il y a une action qui a été menée par l'Office. Nous avons installé une antenne qui n'existait pas du tout à Ouargla. Nous l'avons fait à Edrar et nous l'avons fait dans d'autres sites du Sud, où nous voulons montrer que l'Office est là aussi. Voilà. Donc, Ouargla, nous sommes en train de restaurer Dar al-Qadi, qui est connu, et nous avons des propriétaires qui voudraient bien transformer ou carrément démolir leurs maisons pour construire des maisons en béton armé. Nous leur avons conseillé de ne pas faire cela, d'utiliser le matériau local, et c'est très important de revenir vers l'architecture de terre qui respecte déjà le site, la région, et bien sûr, n'oublions pas que ce matériau a des spécificités thermiques et phoniques qui sont très très importantes. Ça nous évitera de payer une facture énergétique trop importante.
Mais par exemple, pour des propriétaires privés qui ont des maisons qui représentent un peu un patrimoine, est-ce que l'État éventuellement pourraient intervenir, d'abord pour les sauvegarder et éventuellement les récupérer.
Absolument.
Il y a eu des dons de certains propriétaires de leur maison.
En parlant toujours de l'architecture du Sud, mais même dans d'autres villes, il y a ce qu'on appelle le Fonds National du Patrimoine. Il a été créé pour cela, pour aider justement ces propriétaires qui voudraient bien restaurer leur maison, ou tout simplement vendre leur maison, ou céder leur maison. Donc ce fonds-là, justement, il faut juste présenter un dossier via les directions de culture, ou via notre office, ou via d'autres offices qui existent à travers le territoire national, et ça passe par ce fonds national qui finance ces opérations de protection du patrimoine.
Quelle est sa dotation, ce fonds national de patrimoine?
Le montant, je ne le connais pas, je ne suis pas le président de ce fonds. Le président est un des directeurs du ministère, donc je ne connais pas exactement, mais en tout cas, il est doté. Il est doté, le problème ne se pose pas. Je vous ai dit, ce n'est pas un problème de finance.
Donc les propriétaires qui voudraient céder leur maison, ils n'ont qu'à contacter votre office ou le ministère de la Culture.
Alors, s'il s'agit de secteurs sauvegardés, il y en a donc à peu près 19 qui sont en cours, 5 ou 6 qui sont déjà érigés en secteur, c'est l'Agence nationale des secteurs sauvegardés. Si ce n'est pas des secteurs sauvegardés, ils peuvent passer par les directions de culture de Wilaya ou bien par nos antennes qui se trouvent à peu près sur 32 Wilaya. Donc ils peuvent se manifester. Bien sûr, il faut un dossier, il faut un acte de propriété, il faut la Fareda, il faut tout ce qu'il faut, quoi. Et puis après, nous dépêchons des spécialistes, des architectes spécialisés dans la matière pour faire des évaluations.
Mais justement, avec les architectes que vous êtes en train de déployer sur le territoire national, est-ce qu'on est en train d'acquérir un peu un savoir-faire aujourd'hui graduel avec les partenariats différents avec les différents pays qui existent aujourd'hui?
L'université à elle seule ne suffit pas. Donc l'université a formé, mais elle n'a pas encore formé ce qu'il faut. Le partenariat, il nous le faut, parce que c'est la pratique. Il y a des techniques et technologies qu'il faut absolument importer, des savoir-faire qu'il faut absolument mettre en place. Et nous avons opté justement pour ce type de partenariat, 51-49. Dans ce cadre-là, nos architectes, nos techniciens, nos artisans, nos maçons, tout ça, tout ce monde-là va apprendre à faire des choses et aussi introduire les nouvelles technologies. Parce que dans la restauration, il n'y a pas que le vieux matériau. Il y a le vieux matériau, certes, mais il y a aussi des procédés modernes qu'on peut introduire dans la restauration pour aller un peu plus vite.
Mais vous êtes assez nombreux pour faire tout ce travail,
non,
monsieur Zeka?
Pas assez. Pas assez des architectes spécialisés. Il n'y a pas plus de 60 sur le territoire national. Et l'université, et je crois qu'elle est appelée à développer justement cette donne. Nous avons l'école nationale du patrimoine qui existe à la Casbah et à Dar Sof. Elle en est à sa deuxième année. Elle est en train de former des licenciés et des masters.
Alors rapidement, Constantine, capitale de la culture arabe, la restauration des sites et monuments historiques, ça avance aujourd'hui? Est-ce qu'on sera dans les délais?
Alors, je ne suis pas un gestionnaire de cette manifestation.
En non, pour cas, les
nous
sites,
sommes
la restauration.
Assistant à maître d'ouvrage, nous sommes assistants à la wilaya de Constantine pour pour mener les travaux de réhabilitation de restauration dans le vieux centre ou la vieille médina de Constantine, mais également dans des sites qui se trouvent en dehors du secteur. Sur 74 projets, il y en a 34 qui sont en cours. Et je dois préciser que pour la manifestation, je l'ai déjà dit, nous ne pourrons pas restaurer l'ensemble des 74 projets. Nous avons enclenché un process. Nous allons livrer une partie, c'est-à-dire un peu moins du tiers, et avant la manifestation, si Dieu le veut, un tiers pendant la manifestation. Ça permettra aux délégations de visiter les chantiers et de voir des artisans, des maçons en train de travailler. Et puis l'autre tiers, ou un peu plus que le tiers, après la manifestation. Donc c'est comme les Jeux Olympiques. Ça a été une occasion de déclencher ce qui ne s'est jamais fait depuis plus de 30 à 40 ans.
Même principe comme Tlemcen.
Comme Tlemcen, nous faisons un peu mieux que Tlemcen, parce que nous avons fait des erreurs à Tlemcen, technique, hein, je parle du technique, et nous sommes en train d'apprendre, entre autres, le partenariat. Nous avons beaucoup de partenaires, plus de 14 partenaires qui sont sur site à Constantine.
Monsieur Abdelwahab Zekar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. On gardera un peu votre dessin. Merci et bon week-end, à bientôt.